philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jaudard, le 2 décembre 1994.
A-t-on le droit moral d'aller à l'encontre du droit positif? Par exemple, d'aller dans les hôpitaux où l'on pratique l'avortement dans le but d'empêcher tout avortement, ou bien d'autres exemples de droit moral? Tout dépend si le droit positif est moral. Si le droit positif n'est pas moral, il n'est plus un droit. Il y a un droit naturel, tu ne tueras pas. Si le droit positif vous donne la permission de tuer, est-ce que vous avez le droit d'aller contre le droit positif? Oui, parce que le droit positif n'est plus moral. Le droit positif présuppose le droit naturel et détermine le droit naturel. Mais le droit positif n'est pas le droit. Vous voyez, c'est toute la question. À ce point-là, c'est très bien de poser la question. C'est parce que est-ce que l'artificiel est premier? Y a-t-il une nature? Est-ce que l'homme est composé par l'homme ou est-ce que l'homme vient de la sagesse de Dieu? Oui, c'est toute la question là. Quand Aristote dit si toutes les réalités étaient des réalités artificielles, l'idéa serait la substance. Voilà. Si toutes les réalités étaient des réalités artificielles, le droit positif serait premier. Avant la politique, il y a la famille. Est-ce qu'une mère a le droit de tuer son enfant? Hein? Pas du droit naturel. Est-ce qu'une mère aurait le droit de tuer son enfant pour soi-disant se sauver? Non. C'est le droit naturel. On doit revenir au droit naturel. Le droit naturel est exprimé magnifiquement par le décalogue. Tu ne tueras pas. Oui, l'aspect de la législation n'est pas première. La législation, c'est une œuvre des hommes. Et l'œuvre de l'homme n'est jamais première. L'art présuppose la nature. La grâce présuppose la nature. Vous êtes très très net là-dessus. Alors, je peux dire, par exemple, il vaut mieux pas qu'un religieux le fasse. Ça peut se comprendre. Je ne peux pas interdire un religieux qui est un homme de ne pas le faire. Ah, je peux, en tant que religieux, dire je vous demande de ne pas le faire. Mais c'est autre chose. Votre rôle est de prier. C'est ce que nous avons délibéré ces questions au Conseil, déjà depuis longtemps, puisque ça se posait en Amérique. J'avais dit de demander à l'évêque d'abord de l'endroit et ensuite nous pouvons là-dessus préciser encore. J'ai mon neveu en Amérique, il a été 4 fois en prison. Il est père de famille. Mais ses enfants sont déjà âgés. Ils sont presque tous indépendants de leurs parents. Ben, il a parfaitement le droit. Je trouve ça très beau. J'ai vu en Amérique celui qui avait lancé ça. Et je l'ai félicité. Il va contre le droit positif. Et le droit positif aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le droit positif? Est-ce que c'est le droit positif qui vous jugera en dernier lieu? Quand vous serez en face de Dieu, vous dira ah, j'ai obéi au droit positif, Seigneur. Et ta conscience, elle disait que le droit positif était bon ou mauvais. On a une conscience humaine, au-delà du droit positif. Et nous avons tous à regarder si le droit positif est bon ou mauvais. C'est des situations très difficiles dans lesquelles on se trouve. Mais les premiers chrétiens se trouvaient comme ça. Le droit positif demandait d'offrir de l'encens à la statue de César. Alors les premiers chrétiens devaient le faire. avait dit à propos de l'avortement, beaucoup d'infirmières se trouveront dans des situations analogues aux premiers chrétiens, soldats, sous le régime de César. C'est vrai. Et on se trouve devant des situations limites et qui sont des situations qui ne sont pas humaines et qui ne sont pas chrétiennes par le fait même. Elles ne sont pas humaines. L'avortement n'est pas humain. Oui. L'État n'a jamais dit. Les médecins commencent à comprendre. Ils commencent à comprendre. Ils ont mis du temps. Il y a des réactions un peu partout maintenant. Ce qui prouve que ces choses-là ont réveillé la conscience des hommes. Pour moi, c'est ça. Même si le résultat n'est pas très fin, il réveille que quand même on est des hommes avant d'être des citoyens. Vous seriez sous un régime marxiste. Vous obéiriez à tout ce qui est dit parce que c'est droit positif. Le droit positif n'est pas infaillible. Il faut toujours se demander si c'est légal ou pas. Si c'est légitime ou pas. Et si c'est légitime, s'il ne va pas contre le droit naturel. Alors il peut y avoir des cas très délicats, ça c'est sûr, des cas de conscience. Ça c'est évident, il y a des cas où on peut se poser la question, qu'est-ce que je dois faire ? Quand on est trop hésitant, il vaut toujours le mieux de s'y omettre. Et puis attendre d'avoir la lumière. Moi, je dirais pour un religieux, pour un prêtre, le mieux c'est d'aller prier là, sur les lieux, pour soutenir ceux qui font ça. C'est pour laïcs qui font ça. Et on les soutient par la prière. Et on montre que notre âme, c'est la prière. Mais vous voyez, je crois qu'il faut être très net là-dessus. Il faut bien distinguer le droit naturel. Le droit positif. Vous se posez la question si la loi veille est conforme au droit naturel. J'ai vu une psychanalyste qui maintenant est morte au moment de la loi veille. Une psychanalyste qui croyait en Dieu. Qui revenait un peu sa foi dans le Christ devant la loi Veil a écrit, elle me l'a montré la lettre, c'est pas moi qui lui ai dicté, c'est elle-même. Elle dit, ce que vous faites là est très grave. En faisant ça, vous tuez la France et vous verrez les conséquences. Parce que tuer un plus petit, un faible, sans voir ses droits à la vie, c'est supprimer la morale. Et vous verrez que vous allez donner naissance à une anarchie totale, et c'est le plus fort qui sera victorieux. Et devant le plus fort que vous, Simone Veil, vous serez vous-même victime. Parce que c'est pas le droit du plus fort qui donne naturel. Une être extraordinairement forte et nette. Et elle le faisait au nom en tant que médecin. Écrivant à un autre médecin. Donc même si vous ne croyez plus à ce que Hippocrate avait demandé à tous les médecins, au serment d'Hippocrate, qu'on ne fait plus du reste aujourd'hui, paraît-il. On n'est pas du tout obligé de le faire. Même si vous ne l'avez pas fait, vous n'y croyez pas, il y a quand même le fait que le médecin est pour la vie et non pas pour la mort. Et donc un médecin qui joue le rôle de meurtrier n'est plus un médecin. Au sens fort. Elle met ça dans sa lettre. Et elle avait raison. Parce que si on a un respect pour le médecin, c'est parce qu'on croit qu'il est là pour aider à vivre. Un médecin qui domine sur le point du droit à la vie, il n'est plus. ou ces actes responsables dont on est responsable. Alors quand vous êtes en face de quelqu'un qui n'a plus aucun sens du droit de la responsabilité, vous avez le droit de rappeler qu'il est responsable. Et au fond, c'est un rappel du droit naturel, hein, ça. De l'attitude de tous ceux qui font cela. Ce sauvetage, comme on le dit. Je reçois régulièrement les papiers de ça. Parce que ce sont des très braves gens qui font ça. Des gens qui ont un sens de... Ils s'aperçoivent de tous les avortements qui existent actuellement dans le monde. Mais c'est fou de voir ça. C'est pire que tous les désastres des guerres. C'est pire. Et c'est notre monde qui est coupable de ça. Et nous faisons partie de ce monde. Alors nous réagissons à notre manière en tant que religieux. C'est vrai, on réagit en priant. Et vous souvent priez. Marc demandait qu'on prie tous les jours pour tous ceux qui mourraient de cette manière-là. Elle priait beaucoup. Alors elle les voyait, elle voyait qu'ils étaient tous pris par la Vierge Marie. Et que c'était le désir du baptême de la Vierge Marie qui faisait que pour Dieu tous ces pauvres petits étaient comme les saints innocents de notre monde aujourd'hui. C'est une vision très très belle de Marthe. Je crois qu'il y a quelque chose de juste là-dessus. Parce que c'est les victimes d'un monde qui se laïcise de plus en plus et qui perd sa conscience humaine. Parce que c'est la conscience humaine qui est en cause. La conscience religieuse a fortiori, la conscience chrétienne a fortiori, mais c'est la conscience humaine. S'il n'y a plus de conscience humaine, il ne peut plus y avoir de conscience chrétienne. Il ne faut pas l'oublier, ça. La conscience chrétienne se fonde comme la grâce se fonde sur la nature. Présuppose la conscience humaine. Le démon est habile pour supprimer la conscience chrétienne, il supprime la conscience humaine. Il la supprime là où, de fait, il y a des difficultés, des luttes. Alors, je ne parle pas de la culpabilité de ces pauvres gens, parce que on sait que le monde d'aujourd'hui est terrible là-dessus. Mais ceux qui ont conscience doivent porter pour eux tous. Ça fait partie de notre monde d'aujourd'hui. Un monde qui accepte ça est un monde qui va à sa perte. Le Saint-Père le dit avec une netteté extraordinaire dans son gros livre. N'ayez pas peur. Il montre que tout cela, l'Église l'a dit, et d'une manière prophétique. Et il dit, c'est Paul VI, vous m'avez évité. Alors là, il y a quelque chose de très, très vrai. Alors faisant toujours la même distinction, je condamne ça en tant que chrétien, je condamne ça en tant que je crois en Dieu, l'essence du Créateur, et au point de vue purement humain. Au point de vue purement humain, je n'accepte pas l'avortement. Pour d'autres raisons. C'est la raison du droit à la vie du petit qui ne peut pas se défendre. Parce qu'il a un droit à la vie, ce petit. Nous étions restés à la question de l'adoration, s'ouvrant à la contemplation. Ce qui est très important. Et là, s'il y a des difficultés, il faut que vous puissiez les noter. Si vous avez entendu d'autres positions, c'est très important de bien voir ce lien. Et au fond, c'est la recherche de la vérité. L'adoration me met dans une attitude de vérité pratique. Je ne suis vrai au plan concret. peut exister, mais je ne veux pas le savoir. Je veux mener ma vie humaine comme si Dieu n'existait pas. Eh bien ça, c'est souverainement imprudent. Or, combien d'hommes le font aujourd'hui? Mais notre monde est dans la folie quand il fait ça. C'est une imprudence intime. Parce que si Dieu existe, et que je suis dépendant de lui, et que j'ai tout reçu de lui, je n'ai pas le droit de passer devant Dieu. Je fais un acte d'orgueil fou en faisant ça. Or, il n'y a rien de plus imprudent que l'orgueil. C'est l'imprudence la plus grande, l'orgueil. On doit avoir une horreur de l'orgueil. Parce que l'orgueil me fait marcher sur la tête. Et les pieds en l'air. Alors, je suis plus que pied pour les choses spirituelles. Et pour les choses matérielles, je vois tout à l'envers. Et c'est vrai, c'est souverainement imprudent que de nier l'existence de Dieu. Et je crois, vous voyez, que c'est très souvent ce qu'on doit dire à un athée. C'est pas l'attaquer par rapport à Dieu. Là-dessus, vous n'y rêverez pas. Mais vous le dites tout simplement, est-ce que votre attitude est prudente? Si Dieu existe, hein, qu'est-ce que vous serez? Ben, c'est ce qu'on a voulu dire à Mitterrand. Vous commencez à avoir un âge avancé. Hein, ce que vous pensez de temps en temps. Alors, à la place de Dieu, il met la transcendance. Alors, la transcendance, c'est abstrait. C'est comme s'il disait, oui, je regarde la blancheur. C'est vrai, mais le danger, c'est qu'en regardant que la blancheur, vous ne voyez plus le blanc du mur. Vous ne voyez plus que la blancheur. En regardant la transcendance, vous ne voyez pas le transcendant. C'est ça qu'il fallait lui répondre. Alors là, il n'aurait plus rien dit. Il ne pouvait plus rien dire. Parce que c'est vrai. L'abstrait peut être une fuite admirable, mais très imprudente. Et alors comprenons que l'acte d'adoration est l'acte souverainement prudent pour l'homme. C'est très très important parce que c'est ça qui fait le passage entre l'éthique fondamentale humaine et l'éthique religieuse. C'est la prudence. Et je m'ouvre à une nouvelle dimension de la prudence. Et la prudence, c'est la sagesse pratique. C'est-à-dire, j'organise toute ma vie en fonction de ma prudence. Et si Dieu existe, si je peux arriver à dire en un instant, il y a des quantités de gens qui ont cru en Dieu, mais maintenant la science me montre que Dieu n'existe pas. Parce que c'est ce qu'ils disent. Le positivisme, c'est ça. Maintenant, la science montre que je ne sais pas. Je dirais, mais la science, elle vient de qui? Elle vient des hommes. Alors, c'est les hommes qui jugent Dieu. Vous voyez? Au fond, on appelle Dieu au tribunal humain. Et c'est l'homme qui décide si Dieu existe ou n'existe pas. Alors que c'est Dieu qui a décidé. Si j'existais ou si je n'existerais pas. Et au fond, c'est ça que je ne peux pas accepter. Que j'étais un moment sur la balance. Ça n'a pas duré très longtemps, parce que c'est de toute éternité. Alors, d'une certaine manière, c'est toujours actuel. Au fond, c'est ça que l'homme n'existe pas. Ne tolère pas. Alors, il renvoie à Dieu la balle. Vous êtes maintenant à mon tribunal. C'est moi qui vais décider si vous existez ou n'existez pas. Vous comprenez que ça ne touche pas Dieu dans son existence. C'est pas parce que je dis que Dieu n'existe pas que Dieu n'existe pas. Non, non. La négation ne touche absolument pas l'existence de Dieu. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre. Alors c'est pour ça qu'à partir de là, il y a un effort naturel de recherche de la vérité pour elle-même. Et c'est cette recherche de la vérité pour elle-même qui me fait entrer dans la connaissance dite spéculative, c'est-à-dire contemplative. Et j'essaie petit à petit de comprendre si je puis contempler Dieu, si j'ai déjà découvert l'existence de Dieu dans un regard contemplatif, c'est-à-dire par ma philosophie première. C'est évident que ma prudence humaine ne peut pas se contenter d'adorer Dieu. Parce que Dieu est avant moi. Et que mon intelligence pratique n'est pas coextensible avec mon intelligence de cour. Il y a donc une place pour une sagesse spéculative. À saisir, je vois que mon intelligence ne se satisfaire de l'analyse. Elle ne peut pas se satisfaire de la science. Si noble que soit la philosophie première, elle est d'abord scientifique. Scientifique au très grand sens du mot. Et je m'aperçois que les autres sciences sont moins scientifiques que la philosophie. Ça, j'ai le droit de le maintenir dans des milieux capables de le comprendre. Dans des milieux purement scientifiques, je ne dirai rien. Ça ne sert à rien. Il faut leur montrer qu'au-delà de la science, il y a l'âme. Il y a l'âme. Au-delà de la science, il y a le savant qui fait sa science. Et lui demander tout simplement à ce savant si tout ce qu'il découvre dans sa science l'aide beaucoup à vivre et à aimer. Ordinairement, il vous répondra que non. S'il est vraiment sincère. Alors vous direz, c'est dommage. Il peut peut-être y avoir un autre type de connaissance qui vous aidera à aimer. Et vous commencerez à montrer qu'il peut y avoir une connaissance philosophique sur l'homme qui lui permet d'aimer plus. Si je fais la philosophie, c'est pour enlever les obstacles et être libre d'aimer. Et aimer d'une manière qui soit plus vraie que si je ne faisais pas de philosophie. Et c'est vrai, ça. La philosophie me libère comme toute recherche de la vérité. Et donc, voyez, c'est ça qui est important à saisir. Qu'au plan prudentiel, voyez, ce n'est pas l'adoration comme telle qui réclame la contemplation. C'est la prudence qui me fait adorer, qui réclame l'adoration, qui réclame la contemplation. C'est ma soif de vérité qui réclame la contemplation. Or, l'adoration me met dans un état de vérité pratique. Et c'est cet état de vérité pratique qui me permet de m'élever beaucoup plus haut. Parce que cette vérité pratique, c'est le roc. C'est la maison construite sur le roc. Toute vie humaine fondée sur l'adoration est fondée sur le roc. Toute vie humaine qui met entre parenthèses l'adoration est une vie humaine fondée sur le sable, plus ou moins mouvant. Toute politique humaine qui ne respecte pas l'adoration est fondée sur le sable. Toute politique humaine qui respecte l'adoration, qui reconnaît que c'est ce qu'il y a de plus grand pour un homme, d'adorer, est une politique qui respecte l'homme dans ce qu'il a de plus profond. Ça, il faut en avoir une évidence. Alors, évidemment, quand vous répétez ça à l'extérieur, ne répétez surtout pas ça comme une leçon. Il faut le découvrir nous-mêmes en voyant toutes les difficultés qui existent. Et voir le dépassement qui se fait. Et comment se fait ce dépassement? Par cette soif de vérité. Parce que c'est cette soif de vérité qui me maintient toujours la tête au-delà. La soif de vérité m'empêche d'arrêter toute ma recherche à l'adoration. Mais c'est la soif de vérité. C'est pas l'adoration comme telle. Parce que l'adoration comme telle a un absolu. Un absolu, c'est un absolu. C'est l'absolu de toutes mes opérations pratiques. C'est l'absolu de toute ma vie pratique, l'adoration. Et ma vie humaine ne peut pas se contenter de ça. Ma vie humaine va beaucoup plus loin. Oui, j'insiste un peu parce que c'est une des choses importantes. elle existe, et si elle dépasse l'adoration, elle est pour moi source d'un très grand bonheur. Elle est pour moi quelque chose de magnifique, puisque l'adoration me stabilise, me fait établir la maison sur le roc. Mais il est intéressant de voir jusqu'où je peux aller. Si je ne regarde que le roc, tout le temps dans l'adoration, c'est très bien. Vous êtes un honnête homme, mais il manque d'aile. Il manque de souffle. Il faut qu'on garde cette soif de vérité, de recherche de la vérité, et cette soif de compréhension.